Bienvenue à tous. Merci d'être là pour la présentation de Please Kill Me, un spectacle qui est au TNBA, au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, depuis hier soir et jusqu'à samedi, si je ne me trompe pas.
Non.
Ça joue tous les soirs à 20h, sauf samedi, à 19h. Merci à Mathieu Boer d'être là aujourd'hui pour parler de ça. Je vais faire une petite présentation rapide. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Donc Mathieu, vous avez une formation de musicien au départ. D'ailleurs, dans le spectacle, vous êtes à la batterie. Vous avez ensuite monté une compagnie qui s'appelle Sentimental Bourreau, qui est le titre d'une chanson de Bobby Lapointe, une de mes chansons préférées de Bobby Lapointe d'ailleurs. Et puis vous avez fait de la mise en scène avec cette compagnie, puis vous avez commencé à faire la mise en scène seul, à signer seul les mises en scène à partir de 1999, avec des textes assez éclectiques, des choses très différentes de Elias Canetti, un texte de Serge Danet, qui était donc...
Les écrits de Serge Danet, une réflexion autour de la critique et du cinéma. Enfin, il y avait du Godard aussi, il y avait beaucoup de choses, et puis des choses que j'avais réécrites.
Mais d'accord.
La question du cinéma a traversé une bonne partie de mon travail, et de notre travail, puisque ça a commencé dès la création de ce collectif, puisqu'il fallait dire le monde à plusieurs, hein, ça me semble important encore aujourd'hui, même si j'ai mis du temps de passer du nous au jeu, mais la question du collectif et du collégial reste très importante dans la création des spectacles. On en reparlera.
D'accord. Stefan Zweig aussi ?
Non, jamais.
Jamais ?
Là, je vous arrête.
J'ai lu là-dedans. Hein. Bon, c'est pas grave.
Non, j'aime beaucoup Stefan Zweig. C'est un auteur absolument incroyable, incontournable, formidable, mais j'ai jamais travaillé à partir de ses écrits. Peut-être Dostoïevski sur le jeu, puisque j'avais fait un travail autour de Bataille et la part maudite, dans laquelle la question du jeu et de la perte et du potlatch, bien évidemment, par association d'idées, était au cœur du spectacle. C'était rigolo, c'était un metteur en scène qui allait jouer ses subventions parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Ça n'avait pas plu à la DRAC à l'époque, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Mais c'était à l'époque de la crise et de la remise en question, évidemment, du statut des intermittents. Il me semblait qu'il y avait quelque chose sur nos pertes et qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour se refaire, etc. etc. Et même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour se refaire.
Bonne voilà. Question.
Qui traverse aussi Please Kill Me d'une certaine façon, donc on pourra...
Donc Rien ne va plus en 2005
et voilà, ça s'appelait Rien ne va plus.
D'accord. Ouais.
J'aurais dû appeler Faites vos jeux, puisqu'il semblerait que c'était un peu trop pessimiste, Rien ne va plus. Mais ça, c'est la communication qui me l'a dit.
Je continue avec ce petit curriculum vite fait, on va dire. 2011, c'est l'année où vous créez Please Kill Me, c'est aussi l'année où vous prenez la direction du Nouveau Théâtre de Montreuil.
Ouais.
Donc ce spectacle a 5 ans, un peu plus maintenant. Depuis, vous avez créé une série théâtrale sur le modèle des séries télévisées, un peu, c'est ça ? C'était une faille.
L'idée était de s'inspirer effectivement de ces séries qui débarquent là, enfin qui débarquent, qui sont là depuis longtemps maintenant et qui appartiennent à notre champ, on va dire, artistique et que je trouve moi absolument admirable, enfin, en termes de narration, en termes d'engagement politique pour certaines d'entre elles, particulièrement une que j'aime tout particulièrement, ça fait beaucoup de particulièrement, mais qui était The Wire, était une chose pour moi, qui était c'était une sorte de révélation. Je me suis dit, tiens, on peut de nouveau faire du politique dans le champ champ de l'art.
Et puis plus récemment, The Haunting.
The Haunting Melody, oui. Oui, c'est sur une question plus personnelle, sur la musique. J'ai toujours alterné, on va dire comme ça, des spectacles un peu plus en prise avec des questions sociales, économiques, politiques, et puis des choses qui hantent un peu comme ça mon univers, qui sont le cinéma, le rapport à la musique, le rapport à la mélodie, le rapport à l'écoute. Une certaine mélancolie, on peut le dire aussi, qui traverse un peu toutes ces questions-là. Avec cette distinction que je fais toujours entre la nostalgie et la mélancolie. La nostalgie, c'est « qu'est-ce que c'était bien avant ?» La mélancolie, c'est comment on vit au présent avec le passé, avec l'idée de l'histoire, hantée par un certain nombre de spectres, de fantômes qui viennent nous taper sur l'épaule et nous rappeler que derrière nous, il y a des siècles et des siècles d'histoire. Voilà, et donc ça, c'est... ça ne nous empêche pas de vivre, mais quand même, quand on en est conscient, c'est lourd à porter. Donc on est dans une certaine forme de mélancolie. Et puis la question du présent, qui sera peut-être la question pour moi la plus importante, c'est comment on vit au présent, malgré tout. Hein. Il y avait une phrase dans le Danet que j'aimais beaucoup, qui était issue du Bonheur de Medvedkin, qui est un très très joli film de 1922, je crois, en URSS, Medvedkin, Le Bonheur. Oui, ça doit être ça, 22, je crois. Oui, 22, bon, bref. Et vivre comme avant, je ne peux pas. Vivre comme maintenant, je ne sais pas. Voilà, c'était une phrase que j'aime bien, que j'ai fait un peu mienne. Donc il faut chercher, donc ça pose des questions. On travaille à partir non pas de réponses et d'un théâtre didactique, mais un théâtre qui serait plutôt là pour poser un certain nombre de questions, en insistant sur certaines questions, puisque du coup on arrive à suggérer un certain nombre de réponses, mais en laissant quand même une place au spectateur assez importante. Donc ça, c'est un peu... Même chose, puisque je viens quand même d'un collectif avec des gens qui ont accompagné ce travail de façon très, très, très intime. Je pense à Sylvain Cartini, qui a fait toute l'adaptation, par exemple, musicale de Please Kill Me, et qui est un compagnon depuis de la première heure, puisqu'on a monté des groupes de rock'n'roll ensemble quand on avait 16-17 ans. Et puis très vite, on s'est dit, il faut peut-être faire autre chose. Enfin, pas autre chose, puisqu'il y avait quelque chose qui était très vite épuisé dans le geste même du rock'n'roll, où c'était derrière nous, il fallait le réinventer. Et donc la question du théâtre a été importante. Et puis moi, je viens d'une famille de théâtre, et donc j'ai essayé d'échapper au théâtre par la musique. Et puis finalement, le théâtre m'a rattrapé. Et puis je viens aussi d'une famille de musiciens. Il y a mon oncle qui est mort de rire. Mon oncle est là, excusez-moi. Musicologue de son état. Bref, voilà. Donc tout ça a été... Enfin, j'ai fait quelques tournées de rock'n'roll telles qu'elles sont décrites dans Please Kill Me. Et c'est vrai qu'au bout d'une année ou deux années, on s'épuise. On voit que ça tourne très vite en rond. Ce que racontent les Ramones à la fin, Didi Ramone à la fin sur les tournées post-adolescents où on boit de la bière, on joue, il y a les filles qui nous attendent, on fait la tournée en camion, on est dans des hôtels un peu minables, etc. Ça peut être très vite déprimant. J'ai fait l'expérience avec Daniel Jean-Renaud, les Kingsnakes, issus des Hot Pens et tout ça. Voilà, à 16-17 ans, j'étais batteur de rock, comme on dit. One, two, three, four. C'était parti, mais non, il manquait peut-être une dimension, effectivement. Je me suis méfié aussi de la musique. Je me méfie parfois de la musique. Le pouvoir de séduction de la musique est... On pourrait, on se laisse très facilement happer. Hein. Regardez Ulysse, qui lui est arrivé. Le chant des sirènes. Voilà, donc peut-être la musique, à proprement parler, il y a quelque chose dont il fallait du texte, il fallait un contexte plutôt que du texte, plutôt un contexte, oui. Placer la musique dans un cadre, que ce soit de l'image, que ce soit un texte, que ce soit un plateau, que ce soit des corps, etc., etc. Mais pour peut-être échapper à ce pouvoir de séduction, et puis un pouvoir de séduction qu'il a, à titre personnel, avait tendance à flatter un peu trop ma mélancolie. Donc je me laissais aller dans la musique. On se laisse aller très, très vite. Ça n'a pas de tenue. Je crois que c'est Lénine qui disait ça. Si j'avais écouté de la musique, je n'aurais pas fait la révolution. Je pense qu'il est peut-être parfois, il n'a pas tout à fait tort. Il faut... Bref, on s'éloigne du sujet. Enfin, en même temps, on est autour, puisque la question de Peace Kill Me rejoint aussi les questions musicales et comment on s'empare effectivement de ce médium pour raconter le monde, son monde.
Et pour inventer le présent. Donc Peace Kill Me, c'est ce recueil avec lequel certains d'entre vous sont peut-être familiers, d'autres pas. Ça n'est pas un roman, c'est vraiment une histoire. L'histoire, quel est le sous-titre ? L'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. C'est-à-dire que Lex McNeil, qui était un activiste du mouvement punk à New York au tout début des années 70, et Gillian McCain sont allés recueillir la parole de tous les personnages qui ont créé le mouvement punk à New York au début des années 70. C'était un pavé absolument passionnant dans lequel Iggy Pop, les Ramones, Talking Heads, enfin... Tous les grands acteurs de cette musique-là racontent eux-mêmes leur expérience et leur vie. C'est souvent très, très drôle. C'est assez pittoresque. On y trouve à peu près tous les clichés de l'histoire du rock'n'roll et au-delà.
Et au-delà, oui.
Au-delà, c'est-à-dire des choses qui dépassent même ce qu'on pourrait imaginer en termes de débauche, de délire, de volonté de se dépasser, d'aller dans l'absolu. Et donc, c'est ce livre qui a servi de matrice au spectacle, puisque la plupart, je dis bien, des textes du spectacle proviennent de cet ouvrage. Je crois qu'il y a quelques emprunts à d'autres livres.
Non, là vraiment, c'est rare, puisque généralement, je manie le montage, comme on dit, montage de texte pour mettre des choses en parallèle. Et là, c'est... Il y a un article qui m'avait bien plu d'un journaliste qui avait dit que finalement, dans le spectacle, l'acteur principal était le bouquin. Et c'est vrai qu'il y a 7 bouquins qui sont posés sur le plateau et on va le consulter comme ça, comme on consulte un texte de théâtre. Enfin voilà, il est là, il est présent et c'est présent sur le plateau. etc. Mais tout vient de Please Kill Me.
D'accord. Je pensais qu'il y avait des emprunts aussi à I Need More, l'autobiographie d'Iggy Pop.
Il y a la quatrième de couverture de en anglais, si juste d'un texte qu'il a écrit, qui se, ouais voilà, un tout petit passage qui est dit en anglais par Kate. D'accord. À un moment donné sur son plaisir des guitares électriques, l'électricité.
D'accord.
Donc on remercie l'invention de l'électricité.
Oui, c'est très beau d'ailleurs ce passage.
Ouais.
Donc,
mais c'est vraiment tout sinon. Et puis alors on pourrait penser que c'est dans Please Kill Me, tellement c'est bon, bref.
Donc ce livre a servi de... Enfin, et plus que le point de départ, c'est l'épine dorsale de ce spectacle dans lequel vous verrez, je vous invite à aller le voir vraiment, on trouve sur le plateau à la fois donc, cet exemplaire du livre, vous l'avez dit, mais aussi un groupe et deux acteurs qui sont aussi danseurs, qui sont aussi chanteurs et qui s'emparent de cette matière et qui la rendent incroyablement vivante, tandis que le groupe... l'accompagne parfois en réinterprétant, en réarrangeant, en redonnant une certaine modernité à des chansons qui, pour certaines, ont plus de 40 ans. Une des idées fortes et vraiment, vraiment très intéressantes, c'est le fil rouge que vous avez choisi en ramenant l'histoire autour de certains protagonistes du livre, qui sont très nombreux là-dedans. Il y a notamment une grande partie autour du personnage de Iggy Pop.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la façon dont vous avez reçu Iggy Pop quand vous étiez peut-être adolescent, peut-être plus jeune, le personnage, qu'est-ce qu'il incarnait pour vous?
Alors moi je l'ai découvert plus tard paradoxalement, moi je viens plutôt d'une musique, si on revient là-dessus, qui empruntait à une musique plus complexe que ça, j'étais plutôt un zapaïen comme on dit,
zapaïen.
Un fou, et j'écoutais ça du soir au matin, du matin au soir. Et on va dire que Zappa et Mingus, Charlie Mingus, faisaient partie de mon spectre musical de façon... Voilà, et un peu plus tard, Stravinsky. Le punk, finalement, bien plus tard, donc c'est un peu étrange. Mais je me suis mis à aimer ça un peu comme on finit par aimer Duke Ellington quand on est passé par Eric Dolphy. Je ne sais pas comment dire ça, il y a quelque chose de... C'est les classiques, quoi. Donc la figure d'Iggy Pop et le rock'n'roll était pour moi incontournable, plutôt les Stones et tout ça, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Et même les Talking Heads, pour qui j'ai un énorme respect maintenant que j'aime profondément David Byrne, tout ça. C'est arrivé un peu plus tard. Je suis passé par musique plus complexe, on va dire ça comme
d'accord.
Ça. Après, Iggy est un peu à part dans ce panthéon-là, parce que voilà, c'est non seulement un interprète hors pair, c'est un chanteur incroyable, d'une brutalité exceptionnelle, c'est un performeur. Les peu d'images que moi j'ai pu voir, je ne l'ai jamais vu sur scène, mais les peu d'images que, évidemment, je suis allé exhumer pour préparer ce spectacle, il y a pas mal de témoignages. C'est absolument inouï, ça dépasse le simple cadre, on va dire, de l'interprétation musicale. C'est aussi une façon de s'emparer du plateau qui est assez étonnante. Et puis, il y a quelque chose de très direct, de très brutal qui finit par me toucher profondément. J'aimais beaucoup Jonathan Richman aussi, les Modern Lovers. Il y avait quelque chose de très tendre. Ça, j'aimais bien. Paradoxalement, on pense toujours, on rattache le mouvement punk à quelque chose de très dur. Je trouve qu'ils ont quelque chose de très tendre, en fait. Il y a quelque chose de très... Ils sont tous écorchés vifs. Ils ont du mal à... Oui, il y a quelque chose d'assez touchant dans ces figures très teenager. Enfin, ils refusent de grandir. Ils ont envie de s'emparer du présent. Ils sont en révolte contre, évidemment, leurs aînés, leurs parents, l'autorité. Donc il y a quelque chose de très décousu et qui fait qu'à un moment donné, c'est des sales gosses, mais c'est des sales gosses terriblement attachants. Et évidemment, il y a eu quelques écarts comme ça, de provocations poussées jusqu'au bout, des principes de provocation poussés jusqu'au bout qui ont fait que certains d'entre eux se sont retrouvés à arborer des insignes nazis, etc. Mais sans même savoir ce que ça voulait dire. C'était un peu... C'est une débilité profonde, mais ils l'ont reconnu plus tard. C'était pour faire chier le bourgeois, quoi. Voilà, on va aller jusqu'au bout de ce principe-là. Iggy Pop n'était pas là-dedans. Et puis, j'avais envie de raconter l'histoire de la création d'un groupe. Finalement, c'est à peu près toujours le même modèle. C'est quatre mecs qui glandent un tout petit peu, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, un peu de musique, t'as vu ça? Puis, ils en avaient marre de toute cette époque hippie, un peu baba cool, le flower of love, tout le monde est sympathique, etc. C'était un peu les bisounours, quoi. Et donc, ça les emmerdait profondément.
Et eux se définissaient comme... Des délinquants ouais, juvéniles,
délinquants juvéniles, dirty.
Ouais, c'est ça.
Des sales gosses, quoi. Des sales gosses qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Puis ils se sont dit, on va faire de la musique, mais quand ils s'y sont mis, il y a certaines figures, et c'était sérieux, quoi. Enfin, Iggy Pop, il a vraiment pensé le mouvement d'une certaine façon. Pas d'un point de vue intellectuel, mais de façon instinctive, en tout cas, il y a quelque chose qui va après, quand même. On va être les héritiers, mais n'importe quelle posture de rock'n'roll, on leur doit toutes les postures de rock'n'roll aujourd'hui, d'une certaine façon. Les looks, la façon de se déhancher. On parle des corps, mais les corps sont... Le corps d'Iggy Pop, c'est un danseur, mais c'est inouï, quoi. L'iguane, hein, c'est pas pour rien, il avait ce surnom, une façon d'incarner tout ça, une façon corporelle qui est assez inouïe. Donc voilà, donc j'avais envie de raconter plutôt la naissance d'un groupe et puis la déchéance d'un groupe, puisque très vite, une fois qu'il y a, c'est ce que je racontais tout à l'heure, mais au bout de 3-4 années de tournée, les bières, puis bon, on parlera peut-être tout ça, mais il y a un chapitre un peu dur pour ce mouvement-là, en tout cas aux États-Unis, c'est l'irruption de l'héroïne, oui. Qui est une chose qui a décimé le mouvement. Après, avec théorie du complot ou pas théorie du complot, ça dépend de quel point de vue on peut épouser. Certains prétendent qu'effectivement... le mouvement commençait à avoir une certaine renommée, amplitude, et touchait beaucoup, beaucoup de gens, et que l'État aurait mis à disposition de ces jeunes teenagers une drogue qui va les décimer, comme il l'avait fait auparavant avec les blacks américains, avec tout le mouvement afro, en distribuant la dope dans les ghettos. Parce qu'ils savaient très bien que c'était une façon de tuer dans l'œuf n'importe quelle velléité. Après, on devient esclave de la dope, quoi. Donc ça va être terrible pour certains d'entre eux. Donc ils vont tous traverser ça. Donc les tournées de rock'n'roll, le camion, le rapport effectivement à quelques fans, et puis la dope. Et puis il va y avoir une surenchère là-dedans. Il va y avoir une surenchère aussi. Ça va être comme une espèce de symbole. Tu fais ça, je fais ça. Tu fais ça, je fais ça. Tu t'envoies deux cachets. Moi, je vais t'envoyer 4 cachetons. Tu bois une bouteille de whisky, je vais en boire deux. Tu t'envoies un shoot. Enfin bon, voilà, etc. Et donc là-dedans, ils vont se perdre. Ça, c'est sûr, ils vont se perdre. Donc évidemment, tous les groupes se sont formés là-dessus. Très vite, comme ça. On ne sait pas jouer de la musique. Le Just Do It était déjà d'actualité avant que ce soit récupéré par une grande marque pour en faire un slogan. Mais on verra que No Future aussi a été récupéré par un type un peu malin qui s'appelle Malcolm McLaren pour en faire un slogan. Mais on ne sait pas faire de la musique, mais on va en faire. Hein. Des musiques très, très courtes, des chansons très, très courtes, avec des paroles un peu désuètes. J'ai envie de vivre, j'ai envie de toi, je t'aime, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tu m'emmerdes, allons-y. Let's go. Grosso modo, ça se réduit à ça. Et puis très vite, les groupes vont se défaire, parce qu'ils ne supportent plus, parce qu'on est 24 heures sur 24 les uns sur les autres, parce que, voilà, donc ils vont se battre, ils vont se défaire, etc. Donc j'avais envie de raconter ça, et j'ai décidé de faire les Stooges pour la bonne raison qu'ils font un peu le lien aussi avec deux époques, une époque qui est un peu antérieure, qui est le rock'n'roll... celui du Velvet, on va dire, des MC5, hein, voilà. Et puis, ce qui va être le mouvement un peu plus. Moi, que j'aime un peu moins les Ramones, New York Dolls, qui sont des. La musique m'ennuie à chouïa, à titre personnel. J'ai préféré des groupes comme Television derrière, ou Alan Vega, qui était une chose très, très étrange, magnifique. Enfin, Alan Vega, ouais, ça, c'était ma. Ça, j'ai beaucoup aimé, ça.
Ah oui.
Ah ouais, Jukebox Baby, c'était. Speedway. ça me rendait fou de joie, oui. Des choses comme ça. Donc raconter l'histoire des Stooges, c'était à la fois une figure absolument incroyable qui était celle d'Iggy Pop, et puis qui était danseur, hein. Enfin pas danseur, mais qui se définissait pas comme danseur, mais qui mettait effectivement le rapport au corps qui était absolument incroyable. Et il se trouve que moi j'ai travaillé, là où je vais rendre hommage aux deux interprètes absolument exceptionnels qui m'accompagnent sur cette histoire, parce que je pense que le succès du spectacle, puisque évidemment on l'a créé il y a 5 ans, tient aussi sur l'interprétation de Kate Strong, qui est donc elle-même anglaise, qui travaille en Allemagne depuis 25 ans, mais qui a été chez Forsythe, qui est danseuse, qui a fait pendant 10 ans, elle était dans l'ensemble de William Forsythe, qui était une danseuse absolument exceptionnelle. Puis après, elle a travaillé, c'est une performeuse maintenant, et elle a travaillé avec des gens comme Karstorff, Adam Schiff, elle a travaillé avec Yann Favre, etc. Donc c'est une punk, c'est-à-dire elle incarne ça avec une facilité absolument déconcertante. Tente pour moi. Faut bien dire que moi, il ne s'agissait absolument pas de reproduire. On n'allait pas se mettre à 40 balais à vomir et sur scène et puis boire des litres de bière et puis se battre, etc. etc. Donc c'était plutôt donner des signes, travailler à partir d'eux, être traversé par ça et puis ici ou là. donner quelques signes, et elle le fait admirablement bien, et elle incarne la figure d'Iggy Pop admirablement bien. C'est-à-dire dans toutes les mimiques, dans l'incarnation même corporelle, on va dire, de la figure. Elle écoute son accent toute la journée, elle me dit « Ah, je veux faire son accent, il est super », je fais « Ok, let's go, Kate ». Voilà. Et puis Mathias, qui est beaucoup plus juvénile, et qui pourrait, on pense qu'il n'a pas vécu ce mouvement-là, et qu'il essaye de le retrouver, de le mimer, de voir comment on peut le convoquer. Comment on peut le convoquer et leur rendre hommage, puisqu'il s'agit de ça aussi quand même, de rendre hommage à peut-être un des derniers mouvements et les derniers acteurs d'un mouvement un peu radical, réellement radical. On en parlait un peu hier, je pense que le rap aussi, d'une certaine façon, dans les années 80, a pris le relais. Mais de l'expression comme ça, d'une chose et d'une urgence et d'une nécessité à dire, même de façon très maladroite, mais à dire le monde dans lequel on habite, au présent. Cette chose-là, elle est incroyable. Et c'est peut-être ça aussi mon désir de monter Pliskine aujourd'hui. Peut-être qu'on est un peu en déficit par rapport à ça. On est un peu tranquille, c'est embourgeoisé.
Oui, certainement. l'idée du présent, c'est quelque chose qui m'a vraiment saisi à la fois en relisant le livre, mais en voyant le spectacle hier. C'est voir à quel point les musiciens de cette scène new-yorkaise étaient très peu encombrés de ce qui s'était passé avant eux, même si Jerry Nolan des New York Dolls parle du choc qu'il a eu en voyant Elvis Presley quand il avait 10 ans.
Les Kings. On a oublié, il y avait le Velvet, il y avait les Kings, il y avait les Who, quand même, qui étaient les premiers groupes de rock c'était un peu plus brutal, on va dire. La façon, même les Kings, c'était vachement bien, c'est magnifique. Puis c'était des chansons très courtes, très efficaces. Un batteur incroyable, comment il s'appelle, le batteur des Kings.
C'est dur, ça.
Ouais, mais formidable. Il y avait quelques groupes comme ça qui étaient, malgré tout, Elvis Presley.
Oui, Elvis Presley.
Les déhanchements d'Elvis Presley restent. C'est une des voix. C'est une voix géniale. Enfin, ça reste. Mystery Train est une chanson. Il a une voix, mais. J'adore. Pardon. Comme Alan Vega derrière. Et Dean Martin, c'est marrant parce que j'avais monté dans Rien ne va plus. Là, je fais des ping-pong. Mais il y avait la figure de Dean Martin. J'ai beaucoup aimé. Nick Toshies, qui fait partie un peu de toute la sphère, a écrit un bouquin formidable sur la biographie de Dean Martin, mais qui était aussi un punk d'une certaine façon, un voyou. C'était un petit chanteur italien, un peu mafieux, qui a traîné avec le Rat Pack, Sammy Davis Jr. et puis Sinatra, qui était The Voice, enfin qui était très chiant. Mais j'ai une préférence pour Dean Martin. Et Dean Martin, si vous écoutez bien les inflexions d'Elvis Presley, Elvis a tout piqué à Dean Martin. Mais vraiment, Dean Martin est un crooner exceptionnel, avec toujours cette chose-là. On a l'impression qu'il s'adresse à vous directement. La chanson, c'est Dean Martin, l'impression qu'il te le susurre au creux de l'oreille. Elle est pour toi, cette chanson. Ça, ils ont tous. On est persuadé d'être l'unique. Type à qui la chanson est adressée. Alors pour les femmes, je n'en parle même pas puisqu'il était beau comme un dieu. Enfin, il a un charme inouï. Elvis avait cette chose-là et c'était aussi, je pense. Puis des gens comme Alan Vega, effectivement, ou David Byrne ont cette dimension-là. Voilà, plus une musique de chanteur, de crooner. Il y a toute cette tradition qui a traversé que moi j'aime bien. C'est vrai que dans les années 60, il y avait la tradition des guitaristes, Guitar Hero, avec des solos de guitare interminables. C'est pas mal, mais c'est un peu emmerdant au bout d'un moment quand même. Allez, le solo de guitare.
C'est le Zappaïen qui dit ça.
Oui, je sais. Mais Zappa, pour moi, appartient encore à un autre monde. Plus Spike Jonze, paradoxalement. Ah, oui. Plus musique de dessin animé que j'ai beaucoup aimé, Spike Jonze ou des trucs un peu. Puis Varese, il y avait quand même le désir. Il y avait le désir de s'affranchir aussi, à un moment donné, uniquement de la... Enfin, la question de la composition, c'est pas pour rien que Boulez, qui me peut rendre hommage aussi, à un moment donné, travailler sur Zappa. Ou que l'ensemble moderne a fait un Yellow Shark, un des derniers albums sur Zappa, qui est une pure splendeur. Et l'écriture de Zappa, touche à une dimension classique, enfin d'écriture qui est assez importante, que moi j'aimais bien. Mais quand je pense les grands solos de guitare, après il y a les figures, Hendrix effectivement, qui est aussi. Bon, on va pas refaire l'histoire du rock. Enfin, si.
On est là pour ça, on est un peu là pour ça quand même. Mais l'idée de présent, alors justement.
Ah, le présent.
Revenons au présent. On voit à quel point, dans les interviews, à quel point ces types-là, je dis ces types parce qu'il n'y a pratiquement pas de femmes, très peu.
Les groupies.
Ah oui, les groupies.
Okay. Enfin, non, Patti Smith, Blondie.
Debbie Harry, oui.
Debbie Harry, Blondie, Patti Smith.
Wayne County.
Lydia Lunch. Ouais. Qui est, waouh.
Oui, bien sûr, oui.
Bon, il y avait quelques... Et puis dans les couples maudits, c'est vrai qu'un peu plus tard, les Sex Pistols...
Nancy, pardon.
Oui.
On voit à quel point ces jeunes gens voulaient intensément vivre le présent, inventer le présent, sans se soucier du reste. Et j'ai pensé, on en a parlé un petit peu hier soir, ça m'a fait penser au mouvement Dada,
oui.
qui n'avait que cette obsession pratiquement. C'était celle du plaisir, de l'énormité du moment présent, en se contrefichant en fait, de ce qui allait arriver le lendemain. Sans calculer, en tout cas, ce qui pouvait se passer le lendemain. On rejoint l'idée de nos futurs, qui est peut-être une invention plus tardive, en fait, dans l'histoire du punk, au moment de son arrivée à Londres. Mais en tout cas, j'ai retrouvé cette connexion. Est-ce que je fais fausse route, docteur ?
Non, du tout. Allez, route, c'est important. Les routes qu'on emprunte. Non, oui, la question du présent est absolument essentielle. On peut retrouver, effectivement, dans un certain nombre de mouvements... Fluxus, Dada, les situationnistes aussi, d'une certaine façon. C'est comment on s'empare de notre présent et de notre monde pour essayer de le dire modestement, avec, encore une fois, parfois avec maladresse. Mais en tout cas, il y a une façon de s'en emparer qui est bien là. Mais c'est Walter Benjamin, excusez-moi, je fais un autre truc, qui parlait de Baudelaire. Il disait toujours Baudelaire, ce qui est formidable avec Baudelaire, c'est qu'il est au présent. C'est un poète du présent. C'est-à-dire qu'il vit... Il y avait déjà quelque chose de terriblement... Enfin voilà, c'est pas nouveau, hein, ça. C'est juste comment, à un moment donné, on a envie de vivre pleinement l'époque qui nous est... le peu de temps qu'on passe sur cette planète. Voilà, comment on s'en empare pleinement. Et donc ça, c'est important. Ouais, pour moi, ça, c'est important. Est-ce qu'on arrive à le faire ? Est-ce que j'arrive à le faire ? C'est une autre question. Je trouve qu'on le fait de moins en moins, malheureusement. On calcule de plus en plus. On a des plans épargne-logement. On a des choses comme ça. On a des plans de carrière, etc. etc. On est devenu quand même très, très prudent vis-à-vis de ça. On a peur de tout alors qu'on a tout. C'est très étrange. On a un luxe. On vit dans un luxe absolument authentique. On a le futile, on a l'inutile, etc., etc. Et on est incapable de se saisir du présent parce qu'on a toujours peur du futur. Donc effectivement, après le « no futur », ça c'est plutôt une astuce comme McLaren, mais qui est très intelligente. Hein, je veux dire, c'est Vivienne Westwood, après, qui vont ramener ça en Angleterre et qui vont commencer à faire du design. Ils vont commencer à faire des fringues.
Ouais. Du stylisme,
voilà.
Merci,
pardon,
madame.
C'est pas du design, mais enfin, du stylisme, etc., etc. Et puis mettre une petite crête, et puis vendre le mouvement, et puis on aborde un petit badge nos futurs avec. Puis on se dit, tiens, si c'était un peu plus politique, peut-être que ce serait un peu plus vendeur, etc., etc. Mais non, oui, c'est vivre le présent. Mais si on le vit pleinement, sans calculer, effectivement, on y laisse des plumes. C'est-à-dire, si à un moment donné, on n'a pas peur de se le prendre en pleine... Parce que c'est dur aussi. Mmh. C'est pour ça qu'on prend de la dope aussi, parfois. Parce que le présent, il peut être une violence inouïe. Parce que ce qui nous renvoie sur nous-mêmes, sur notre incapacité, sur l'impossibilité qu'on a, effectivement, à tout simplement essayer modestement, encore une fois, de dire le monde, je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà, à un autre endroit, bah, si on n'y arrive pas, bah, mieux vaut se réfugier dans la taupe de temps en temps. C'est plus, on arrive à s'extraire, on arrive à l'oublier, à le laisser de côté. Donc voilà, oui, le présent, c'était leur mot d'ordre, ce n'était pas le « no futur », c'était « tout pour maintenant ». Et puis, on verra bien après. Alors, évidemment, après, de temps en temps, il y a un type qui vient toquer. Enfin, je ne sais pas si c'est un type, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui amène l'addition. Et l'addition peut être salée, très salée. Pour certains d'entre eux, ça a été très, très salé, vraiment, puisqu'il y a quand même la moitié des protagonistes du bouquin qui sont morts dans des conditions très jeunes, dans la misère, la dope... Puis des véritables clodos, quoi. Faut bien le dire. J'ai vu les dernières images de Johnny Thunder, qui est un chanteur magnifique aussi. Bon, il y a un concert de lui qui est au Gibus, c'est juste pathétique. Il ne trouve pas le micro, il tombe par terre, il oublie les paroles, il joue de la guitare, il s'arrête. Voilà, il va mourir 2 mois plus tard dans une chambre minable à Belleville. Voilà, j'ai travaillé avec Daniel Jean-Renaud. Bref, peu importe, qui était un chanteur absolument... Et c'est massacré. La dope l'a massacré. C'était terrible à voir. C'était donc la dope. Enfin, je veux dire, en tout cas, à ce moment-là, la dope a été quelque chose d'une violence. On a connu des. Alors là, je dis on, puisqu'il y a mon Pierre Morlaine, qui était un batteur exceptionnel, qui est batteur de gong. Là, je fais juste une aparté, qui s'est détruit avec l'héroïne, totalement détruit. Alors que What's the Report lui avait demandé de jouer avec d'être ce batteur. Mais voilà. Donc, l'addition, au-delà de la question, effectivement, le présent, si on veut vivre le présent, de temps en temps, on a du mal. Donc, comment on a du mal? Parce qu'on est pleinement dedans, on prend un peu des trucs pour oublier qu'on est prêt à tout pour vivre ce présent. Et puis, à un moment donné, ça nous emmène tellement loin qu'on devient esclave d'une autre façon. Donc, c'est un peu. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose d'assez triste aussi dans tout ça qui traverse, d'où la mélancolie. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez triste pour tous ces. Ou Richard Lloyd, qui est un guitariste magnifique, mais qui était schizophrène total, qui n'y arrivait pas. Enfin, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient un mal, encore une fois, il y avait un mal à vivre quand même. Même s'il y a un côté très joyeux, et effectivement, c'est très pittoresque. Comme on dit, il y a quelque chose qui traverse tout ça qui est quand même plus dur.
Une forme de romantisme aussi dedans.
Oui, c'est marrant. Après ça, j'ai monté Wagner, moi. J'ai monté Tristan et Isolde, une version un peu particulière du mythe de Tristan. Moi, j'aime bien Wagner. Je sais que le punk est Wagner. Mais il y avait quelque chose, oui, dans l'envie de se noyer. À la fin de Tristan, il y a l'envie de sombrer d'une certaine façon, un peu, d'une façon un peu romantique, hein, je le reconnais, enfin, même un peu naïve, romantique attardée. Quelqu'un qui m'avait dit t'es vraiment un romantique attardé. Je fais, oui, c'est un peu. On fait ce qu'on peut. Mais il y avait cette idée de l'eau, effectivement, d'être aspiré, de l'obscurité, la nuit, enfin, toutes ces thématiques qu'on retrouve aussi dans Tristan. Et, évidemment, elles sont présentes d'une certaine façon dans le mouvement punk. Et puis la transfiguration par la musique. Non pas par l'amour, plutôt par la musique. je crois, en tout cas.
Le basculement de 64. 16, quand Malcolm McLaren, qui donc était le manager du groupe new-yorkais New York Dolls, est parti à Londres. Vous l'avez dit, il a monté avec Vivienne Westwood ce magasin un peu scandaleux qui s'appelait Sex, je crois, qui vendait les premiers artefacts du punk londonien en termes d'habillement, etc.
Ouais, c'est génial, hein, en même temps. Les fermetures éclairs.
Les fermetures éclairs, les épingles de la nourrice un peu plus tard. Et
le détournement. Tout ce qui était les tissus écossais, etc. Enfin, tout ce qui a été. Voilà, c'était. Là, on était plutôt du côté Warhol. Hein. C'était des pop art, c'est-à-dire comment on récupère un mouvement ultra populaire et qu'on en fait quelque chose de. Là, ils avaient compris. Que ce soit Warhol. Par exemple, il a énormément pompé. Il en est question dans Please Kill Me, avec un talent incroyable, qu'il faut lui reconnaître. Mais a énormément pompé à tout le mouvement. À Iggy, avec la gestuelle. Au New York Dolls, pour le côté androgyne.
Enfin, au Velvet. Voilà,
au Velvet, bien évidemment, et tout ça. Bon, après, il a aussi sauvé Iggy Pop, par exemple. C'est quand même Bowie qui a remis Iggy Pop sur les rails, en faisant deux albums qui sont, à mon sens. Font partie des meilleurs albums de l'histoire du rock'n'roll, qui sont Lust for Life et The Idiot, qu'ils ont fait à Berlin et qui sont deux petits chefs-d'œuvre. Mais c'est Bowie qui fait tout. Comme il va sauver Lou Reed. C'est lui qui va faire Transformer et avec Mick Ronson à la guitare. Et il va prendre et ça va être trois opus absolument magnifiques. Donc Bowie avait aussi cette générosité-là de reconnaître à un moment donné ce qu'il leur devait et de leur rendre d'une certaine façon voilà la monnaie. Leur pièce.
Il y a ce texte très beau, très touchant où Lex McNeil, qui était donc le fondateur du fanzine punk, qui a donné son nom au mouvement, a l'impression qu'on lui a volé le truc quand même. Quand les Anglais s'accaparent le mouvement punk, ou en tout cas comme McLaren crée de toutes pièces les Sex Pistols, qui n'était pas loin d'être un boys band destroy, on peut dire ça comme ça peut-être.
Ça a été monté toute pièce avec un boys band destroy. Oui, c'est vrai, ça, c'est juste. Je n'avais pas pensé. Et premier boys band, Sex Pistols. C'est pas mal, ça.
Et Lex McNeil dit combien il a l'impression que c'est plus cette histoire que. Cette phrase est reprise dans le spectacle quand il dit : mais si vous voulez inventer votre truc pour la jeunesse, faites-le, mais le punk, c'est nous.
C'est nous, oui.
Et donc, est-ce qu'il y a une forme de trahison pour vous, là-dedans ? Ou en tout cas, dans quel état est-ce que ça laisse les New-Yorkais? Ça les laisse un peu désemparés un peu.
Ce qui est absolument délicieux dans le mouvement tel qu'il a été, tel qu'il est présenté aux États-Unis, à New York, c'est que c'est très éclectique, en fait. C'est-à-dire qu'on va renommer les groupes, mais entre Televisions, Jonathan Richman, les New York Dolls, les Talking Heads, ouais. Alan Vega. Enfin, on a affaire à une musique qui est très différente. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont d'émanations. Enfin, voilà. Il y a juste cette volonté de monter des groupes coûte que coûte, de jouer, même si on joue mal. On ne se posait pas la question d'écrire des chansons, d'être présent. Les punks, quand vont arriver les Sex Pistols, ils vont enfermer le mouvement d'une certaine façon. Ça va être tout d'un coup, ils vont représenter la quintessence de ce mouvement et ils vont avoir tous les artefacts, effectivement, du truc, la crête, le bidule, le machin... Et puis, ils vont aller plus loin. Ça va être la surenchère. C'est-à-dire qu'ils ont quand même deux figures. Il y a Johnny Rotten qui est un fou furieux, mais vraiment un fou furieux, il faut bien le dire. C'est un type qui n'a pas froid aux yeux et qui va oser faire des trucs que personne n'a osé faire encore jusqu'à présent. Il va aller plus loin qu'Iggy Pop, pour dire. Mm. Parce que Iggy Pop, il allait très, 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 très loin. Enfin, il est fini à l'hôpital, s'est fait des scarifications, et il s'ouvrait le corps, il y avait du sang. Enfin, c'était déjà pas mal. Donc, Johnny Rotten va aller encore un peu plus loin. Et puis, il y a une autre figure, c'est Sid Vicious, qui, alors, lui, est un débile profond, il faut bien le dire. Enfin, tout le monde témoigne de ça. C'est un espèce de crétin juvénile, mais pour le coup, avec un QI de 25, qui va... Alors, lui, mais... Ouais, il va tout faire. On lui dit de sniffer du plâtre, il va sniffer du plâtre. S'il faut prendre un ras, le mettre là où je pense, il va le faire. Il est cinglé, quoi. Le type est cinglé. Donc il y a une déferlante comme ça qui va passer sur les États-Unis puisqu'ils vont organiser une tournée. Et donc ça va être repris par tous les journaux. Ça va être une surenchère sur surenchère. Ils vont aller sur les plateaux de télévision, etc. Et ils vont faire le buzz, comme on dirait maintenant. Et donc ils vont effacer d'une certaine façon, on va dire, l'inventivité qu'a pu être aussi cet endroit-là, celui du punk. Je pense que c'est plus ça qu'ils leur reprochent d'une certaine façon, et d'enfermer le mouvement et de s'accaparer le mouvement et de dire le punk c'est ça. Non, c'est pas ça, c'était ça et autre chose. C'était Lou Reed, c'était le CBGB. Et puis il y avait un rapport à la ville aussi qui est totalement différent. Je pense que ça, ça c'était un truc que j'aime bien et on le voit dans le bouquin, à quel point une ville aussi peut permettre à un moment donné ou peut porter des mouvements. Je pense que Paris, par exemple, moi qui vis à Paris, est terrible. C'est une ville, c'est fini, c'est mort. Mais c'est normal. N'importe quel jeune type qui a 17, enfin, à 17 ans ou à 18 ans à Paris, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de lieu qu'on peut investir. Il n'y a pas de lieu dans lequel on peut se projeter, où on se dit, on ne peut pas jouer de la musique dans les bars parce qu'il y a les flics qui débarquent. Je reviens, juste une petite parenthèse, je ne veux pas ramener à moi, mais quand on a commencé à faire du théâtre, moi j'avais 18 ans, je vivais à Paris, c'était donc en 88-89, je vivais dans 200 mètres carrés au fond d'une cour, avec un chiotte, etc. J'ai fait du théâtre là, je suis allé voir la proprio, je lui ai dit, on voudrait faire un... Voilà, mais il y avait encore... Et on louait 150 euros par mois. 1000 francs, 150 euros, on était deux, on avait du mal à payer. 75 euros chacun. Donc voilà, mais il y avait un lieu dans lequel on a pu investir, on était 8, on était 9, et puis on a commencé à... Voilà. New York était une ville comme ça, totalement ruinée, il faut bien le dire, dans ces années-là, hein, jusque dans les années 80, une ville très très dure, mais où il y avait des espaces un peu partout, et donc qui permettaient aux peintres, qui permettaient aux musiciens, parce qu'il n'y avait pas que les punks à ce moment-là, John Cale continuait à faire sa musique dans des coins. Toute la danse contemporaine est née à New York dans ces années-là aussi. C'était un mouvement absolument Merce Cunningham qui a commencé. Enfin voilà, c'était un lieu de vie, mais parce qu'on était fauchés, comme tous les artistes au début, on est fauchés, on est presque condamnés à être fauchés. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà, mais il faut des lieux dans lesquels on peut à un moment donné avoir cette opportunité. New York était une ville comme ça.
Puisqu'on parle géographie, n'est-ce pas?
Ouais, t'en as pas un peu de topographie.
À New York, ça se passait quand même dans les quartiers qui étaient complètement à l'abandon. Enfin, je veux dire, le Bowery où se trouvait le CBGB, c'était un coupe-gorge.
Ouais, Alphabet City, ouais, c'était un coupe-gorge.
C'était quand même des sales coins, quoi.
Oui, c'était des sales coins. Mais... Ouais.
Donc, c'était des territoires qui étaient aussi à conquérir, en fait. C'est ce qu'ils ont fait, non?
Mais il y avait plus de sales coins. Il y en avait beaucoup. C'est-à-dire que le clean est arrivé bien plus tard. Oui. Et donc, il y avait effectivement le Bowie, mais Lower East Side, Soho, enfin, Greenwich. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de New York, j'y suis retourné, mais je regarde le Wooster Group qui est au plein milieu de Soho maintenant, là où le grand groupe de théâtre fabuleux, le Wooster Group, c'était. Voilà, ils avaient une usine. C'est comme ça qu'est née cette aventure. Mm. C'est juste parce qu'il y a la rue Wooster et ils avaient une usine, une factory dans laquelle ils ont pu à un moment donné faire du théâtre. Il faut des espaces, même si c'est un peu mal famé. Mais il faut quand même des espaces. Et le CBGB, évidemment, c'était un bar qui était. Ça n'a rien de très glamour. Hein. C'est Alphabet City, je ne sais plus sur laquelle. C'est la grande avenue A. C'est une énorme avenue. Maintenant, c'est triste. C'est devenu un magasin de fringues, à la con, là, où on peut acheter toujours les mêmes jeans un peu partout dans le monde. Bon, voilà.
Ils ont gardé sur un des murs. Donc,
ouais.
Un des murs du CBGB's, sur lequel il y avait tous les graffitis, les autocollants et tout ça, ça a été muséifié, c'est très bizarre. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette boutique qui ressemble à Gap ou à Zara, et là, il y a ce mur avec les graffitis d'époque qui sont cachés derrière une vitre. C'est assez étrange. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au CBGB's quand il était ouvert.
On a eu le plaisir de jouer Please Kill Me à New York. Et les mecs se sont foutus de nous. Bah, c'est notre histoire, pourquoi vous nous racontez ça? Mais c'était assez rigolo. C'était un vieux rêve. On a joué à New York avec Sylvain Cartini, guitariste.
Oh, super.
Ouais. On y retournait avec un autre truc, mais bon, qui n'a rien à voir.
À la fin du spectacle, je ne veux pas spoiler, comme on dit maintenant, mais vous mettez en exergue l'idée, le goût de l'aventure et le sens de l'aventure, avec cette phrase magnifique qui compare l'aventure punk au fait qu'il y a des gens qui préfèrent grimper en haut de l'Everest. Est-ce qu'ils ne sont pas largement aussi cinglés que ces gens-là? Il y a des gens qui veulent aller partir dans des navettes spatiales et qui finissent par mourir dans des fusées qui explosent. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi cinglés que les punks qui ont voulu ça?
Très certainement. Mais la question de l'expérience, hein, les expériences qu'on est censé, à un moment donné, en possibilité de faire, est importante. Donc effectivement, ça a été une expérience. C'est un paradoxe, comme elle dit. Mais ça a été aussi une magnifique expérience, une incroyable épopée, une aventure. Et comme toutes les épopées, c'est des voyages. On revient ou on ne revient pas. Mais en tout cas, ils ont tenté des voyages. Toutes les façons. Donc oui, effectivement, il y a cette dimension-là. Ouais. Le livre est absolument délicieux, vraiment, à lire. Alors, il ne faut pas le lire d'une traite, parce que c'est un peu redondant. Il y a plein... Mais c'est un livre qu'il faut avoir, et puis... Il y a des chapitres sur des époques, sur des groupes, c'est désopilant. Et ça fonctionne comme un livre d'histoire. C'est ça aussi qui est assez intéressant. C'est qu'il n'y a jamais le même point de vue sur le même événement. Il y a le point de vue des protagonistes qui sont concernés, il y a le point de vue du type qui était dans la salle, il y a le point de vue du manager, il y a le point de vue de la maison de disques. Et les Ramones vont vous dire que le premier concert qu'ils ont fait, c'est une catastrophe absolue, mais catastrophe, puisqu'en fait, ils pensent qu'ils peuvent faire un concert, mais ils ont 8 morceaux, donc 8 morceaux de 2 minutes, grosso modo, ça fait 16 minutes. Au bout de 16 minutes, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont censés jouer une heure, donc ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils vont tout casser pour ça. Ils vont péter tout leur matos. Ils font, on est débarrassé, on ne peut plus jouer. On a fait notre concert, 16 minutes. Et ils disent, en fait, on a tout pété sur scène, parce qu'au bout de 16 minutes, on a fait une reprise. Puis, il fait, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Je ne sais pas. Ouais, casse tout. Et casse tout. Donc voilà, ça c'est la version des Ramones. Et puis après, il y a, le manager qui était là par hasard qui dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Ils ont tout cassé à la fin, c'était génial. Et puis il y a la groupie, excusez-moi pour la groupie, je vous jure que les femmes ne sont pas réduites uniquement au rôle de groupie dans le bouquin, qui fait « Ils étaient tellement beaux qu'après... » Enfin voilà, et c'est sur la même soirée finalement, on s'est... très bien ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui appartient à la légende, ce qui appartient à la mythologie. Enfin, et du coup, se crée, et il faut aller exhumer dedans et chercher. Et puis, au bout d'un moment, on se familiarise avec un certain nombre de personnages. Et puis, on recroise, il y a des croisements qui s'opèrent. On se dit, ah oui, c'était ça. Bah, lui, de toute façon, il exagère tout. Lui, un peu moins, etc. Et c'est un livre d'histoire. C'est un vrai livre d'histoire. C'est ce qu'on fait couramment avec l'histoire, en essayant de recouper un certain nombre de témoignages ou différents indices qu'on peut avoir, différents écrits, pour voir ce qu'il en était réellement, quoi. Et ça, le bouquin fonctionne comme ça. En ce sens-là, il est formidablement bien construit. Au début, on peut penser que c'est un peu décousu, parce qu'il y a un nombre de personnages qui viennent témoigner. Enfin, c'est... Ouais, c'est dense, mais c'est comme l'histoire, c'est dense, c'est plein de petits jalons qui sont posés ici et là, et puis on remonte le cours de cette histoire, voilà. Et c'est le bouquin est délicieux. Et puis en plus, j'adore moi Alia, ils font toujours, c'est une très belle édition, c'est des très belles éditions.
Quelques photos qui sont.
Puis on peut pas le perdre, il est rose, je vous jure, dans une bibliothèque, fait ah, il est là. Contrairement à certains autres bouquins, on se dit merde, où est-ce que je l'ai mis ? On y passe 20 minutes. Celui-là, non, on le retrouve tout de suite.
Je vous recommande vraiment ce livre qui est vraiment du plaisir. Ouais. Une chose dont on a peu parlé aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi dedans, parce que c'est quand même. On s'y amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'humour dans le spectacle aussi. On rit à plusieurs reprises. En complément de ça, si au bout de 690 pages, vous pensez que vous avez peut-être raté des trucs, je me permets à titre personnel de recommander l'autobiographie d'Iggy Pop qui s'appelle I Need More, qu'on trouve pour moins d'une dizaine d'euros et qui est aussi assez délirante, tellement c'est bigger than life, plus grand que la vie. Je vous recommande aussi l'autobiographie de Didi Ramone, qui était donc le bassiste des Ramones. Le livre porte un titre tout à fait pertinent puisqu'il s'appelle « Mort aux Ramones ». Il a été traduit en français par Virginie Despentes. La version française est excellente. Je n'ai pas lu la version originale, mais en tout cas, j'avais trouvé la version française vraiment excellente. Et puis surtout, je vous recommande d'aller au TNBA d'ici samedi, réservez vos places, pour voir « Please Kill Me » sur scène. C'est à la fois une expérience... une expérience visuelle, sonore, sensorielle à tout point de vue. C'est aussi un voyage intelligent. Et,
on va arrêter là.
Et on va arrêter là. Et je vous remercie à tous. Je remercie spécialement Mathieu Bauer d'être venu ici ce matin. Je ne me suis pas présenté au début. Je suis Stéphane Jonathan. Je suis journaliste à la rédaction de Sud-Ouest. Et voilà, en charge du ministère du rock'n'roll. Donc merci à tous.
Merci à vous tous.